blessures maintenant à éviter. Quelles sont ces blessures à éviter? Par contre, là, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de développer. Les blessures à éviter chez l'enfant sont nombreuses. Je vais survoler certains cadres de ces blessures qui vraiment n'ont vraiment rien à voir avec la rigueur. Et vous allez en voir la différence. En tant que parent, si quelquefois vous avez peur de dire non, pensez aux réelles blessures qui n'ont rien à voir avec le fait que l'enfant soit frustré, tape des pieds et vous dise « t'es méchante, t'es vraiment une mauvaise maman ou un mauvais papa, je te déteste ». Ça, ça fait mal, mais l'enfant, quand il dit ça, il sait très bien que ça va faire mal. Donc, ne rentrez pas dans le piège. Alors, les blessures à éviter sont énormes et nombreuses. Elles sont engendrées à la maison, souvent. Ce ne sont pas ces blessures seulement qui laissent des traces, ces bleus à l'âme, ces bleus physiques, ces maltraitances, ces abus sexuels dont on parle, mais ça peut passer par ces petites blessures insidieuses, ces chantages affectifs. C'est « Ah, on a fait tant pour toi, regarde comme tu es ingrat de ne pas faire ce que tu nous dis de faire. Ah mon Dieu, moi qui suis si vieille ou si fatiguée, regarde comme tu nous fais du mal. » Ça, c'est un poison. Ça laisse pas de traces. Hein. Mais qu'est-ce que ça en laisse à l'intérieur si ça n'en laisse pas à l'extérieur? Alors, dans le contexte familial, c'est l'enfant qui a une maman un peu trop présente, un trop de mère. Les mamans abusives, les mamans trop présentes. Ou au contraire, le pas assez de maman. Les mamans qui, ça c'est connu, hein, qui sont au contraire peu présentes et trop dans l'absence. Il y a le problème du divorce, bien sûr, mais je ne vais pas revenir sur le problème du divorce qui peut faire des dégâts. C'est surtout comment, bien sûr, le divorce s'installe dans une famille, comment il se développe, quelle forme il va prendre. C'est pas le divorce en lui-même. C'est la façon dont les parents séparés ou divorcés resteront parents vers leurs enfants, resteront pères, resteront mères. Même si les parents sont séparés, si ça n'est pas la panacée pour l'enfant, si le père et la mère restent là en tant que parents, ma foi, le couple peut faire ses affaires après comme il l'entend. Je voulais vous citer un très beau texte de Christian Bobin que j'ai trouvé récemment sur le rôle du père et de la mère, ou de son substitut, bien sûr, hein, si les parents ne sont pas là. Toutes les personnes qui représentent pour un enfant le père ou la mère. Un père, c'est quelqu'un qui représente autre chose que lui-même face à son enfant et qui croit à ce qu'il représente, la loi, la raison, l'expérience, la société, la rigueur, je rajoute. Une mère ne représente rien en face de son enfant. Elle n'est pas en face de lui, mais tout autour, dedans, dehors, partout. Elle tient l'enfant levé à bout de bras et elle le présente à la vie éternelle. Tout simplement, ça veut dire que le père, c'est la loi, la rigueur, la vie extérieure, l'abord de la société pour l'enfant. Par contre, la mère, c'est la douceur, l'intuition, la finesse. C'est tout ce qui permettra à l'enfant de vivre des choses intérieurement. Et pour un enfant, avoir son père ou sa mère ou ses substituts, j'insiste bien, hein, ou la mère qui arrive à jouer ces deux rôles, ou le père qui arrive à jouer ces deux rôles. Hein. Je fais très attention à ce que je dis. Hein. C'est l'idéal quand il y a bien sûr un père et une mère. Nous, adultes, nous aurons à intégrer ce côté, j'allais dire, féminin et masculin en nous pour arriver à nous équilibrer. Différentes théories sont là-dessus, mais là n'est pas le but de mon discours. Autre grande douleur, l'enfant en deuil. Avec des intervenants spécialisés là-dedans, dont j'ai les adresses si ça vous intéresse. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, donc je passe. Il y a des manifestations du chagrin chez l'enfant qui sont très profondes au niveau physique ou moral, mais tout un travail de deuil accompagné par un spécialiste ou par les parents qui écoutent l'enfant peuvent intervenir dans ce cas-là pour liquider cette douleur le mieux possible. L'enfant réparateur également, l'enfant qui est une énorme souffrance, qui doit jouer le rôle de quelqu'un d'autre, un frère ou une sœur décédée, qui devient un objet, une béquille, qui ne peut pas être lui-même puisqu'il prend la place de quelqu'un d'autre qui est décédé aux yeux des parents. Un exemple, Vincent Van Gogh, qui est né un an jour pour jour après le décès de son frère aîné, dont les parents lui donnèrent le prénom. Vincent Van Gogh eut un grand ami qui était comme un frère, je dis pourquoi comme un frère, qui s'appelait Théo. Et ce frère, donc le double de lui-même, une fois adulte, a eu un petit garçon qu'il a appelé Vincent. Et il est dit que Vincent Van Gogh s'est suicidé en partie à cause de cela, parce qu'il n'a pas supporté qu'il y ait deux Vincent dans une même famille. Lui qui avait toujours senti qu'il usurpait la place d'un autre, de ce frère décédé, n'a pas supporté. Donc, en partie, on explique son décès, son suicide, de cette manière.